les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Une série culte pour beaucoup, Zora Larousse, c'est le thème du dossier du jour. Un feuilleton pour enfants de 13 épisodes, et oui seulement, c'est une adaptation d'un livre pour enfants allemand de Kurt Eild. Il a été tourné en 1978 dans ce qui était encore la Yougoslavie. La fiction a été coproduite par la Yougoslavie, l'Allemagne et la Suisse avec l'aide d'Antenne 2. La première diffusion française a eu lieu en janvier 1981 dans Récréa 2. Le feuilleton a récemment été rediffusé par TMC qui a dû fournir un travail de restauration conséquent sur les bobines de films originales. Le créateur est Rainer Sonnlein, le réalisateur Fritz Umgolter. Zora est jouée par Lidia Kovacevic et Branko par Nedeljko Vukasovic. Cap sur l'histoire en compagnie de Sarah, bonjour.
Bonjour, et je te promets que ça sera la seule série yougoslave dont on va jamais parler.
Ça me fait plaisir, ça m'évitera de devoir citer des noms impossibles.
Impossible, effectivement. Tragique. Le premier épisode débute sur la mort de la maman de Branko. Elle est morte à cause des poussières dégagées dans la fabrique de tabac où elle travaillait. Et comme on ne sait pas où est son père, la famille est trop pauvre, personne ne peut le recueillir. Donc il se retrouve seul au monde, affamé et accusé d'avoir volé un poisson. Ça commence vraiment très mal,
oui, effectivement.
Alors Zora Larousse le libère de prison, il passe l'épreuve du poignard et intègre la bande, surnommée la bande des Ouskok, en souvenir des vaillants chevaliers qui ont construit le château fort 400 ans auparavant. Alors cette bande, elle est dirigée par Zora Larousse, qui tient son nom évidemment de la couleur de ses cheveux. Elle provient d'Albanie, elle a quitté ce pays 4 ans plus tôt parce que sa famille a été touchée par une vendetta. Son père a tué par accident un membre d'une autre famille durant une chasse et les hommes de l'autre famille ont décidé de tuer tous les hommes de sa propre famille à elle. Quand son père, son oncle et ses grands frères ont été tués, la mère et Zora fuient le pays pour préserver la vie du petit frère de Zora. Malheureusement, la mère de Zora meurt aussi des suites des poussières de l'usine de tabac et son petit frère ne va pas supporter la mort de sa maman et mourra quelques jours plus tard.
Mais cette série est vraiment dramatique.
Et Zora se retrouve seul au monde. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Il faut bien mettre
faut
un petit peu...
Il faut faire pleurer dans les chaumières avec cette série, c'est pas possible. Je me souvenais pas que c'était aussi triste.
Mais ça n'est pas si triste que ça, parce que les personnages ne pleurent pas sur la mort de leurs parents. Mais il faut bien aussi, pour avoir des enfants vagabonds, montrer des enfants qui sont orphelins. Donc
quelque
c'est
part.
Logique.
On va dire donc qu'on part sur une base positive. Les enfants sont positifs.
Voilà. Ils sont orphelins, mais positifs. D'ailleurs, Zora n'a pas voulu rester à l'orphelinat parce qu'elle aime trop la liberté. Et c'est pour ça qu'elle s'évade et qu'elle devient la chef de la bande. Si elle est la chef, c'est parce qu'elle est la plus forte, soit dit en passant. Alors, la bande est également composée de Paul. Paul, c'est le bricoleur de service. Nicolas, qui est un amateur de comédie. Et Douro, qui est le petit dur de la bande. Le plus cruel et le seul qui ose tuer les oiseaux pour les manger, par exemple. La bande donc vit dans ce fort qu'on dit hanté, la cachette idéale même s'il est carrément pourri. Tout au long du feuilleton, on voit les ennuis quotidiens de la bande. Alors l'ennui principal auquel ils doivent faire face, c'est la nourriture. Logique. Et ils sont généralement contraints à voler puisqu'ils ne travaillent pas et personne ne veut les aider. Donc ils sont obligés de voler pour se nourrir. Mais on assiste aussi à une descente aux enfers de cette bande. Parce que au vol s'ajoutent des faits qui vont précipiter leur perte. Ils aident par exemple Stéphane, un conducteur d'âne, qui généralement transporte pour les paysans les denrées jusqu'au marché. Mais Stéphane a été attaqué par une autre bande, les collégiens, et pour le venger, il décide de relâcher les animaux du garde forestier, d'ouvrir les vannes du barrage du Meunier, et tout ça se termine en bagarre générale dans le parc. Mais les conséquences sont assez fâcheuses, parce que les animaux et les poissons mis ensemble, ça donne 3000 dinars qu'ils doivent à deux personnes. Donc ils s'enfuient pendant quelques temps, histoire de calmer les choses, mais quand ils reviennent, les choses ne sont pas calmées du tout. Et donc ils doivent se cacher, même si pendant ce temps-là, ils aident Gorian à pêcher le thon, donc ils ont un petit peu de revenus quand même. Mais ils sont pris par une espèce d'envie de venger tout le monde, ce sont des adolescents au cœur pur en fait. Et quand Gorian est harcelé par une société de pêche pour vendre, la parcelle de mer qu'il utilise, ils vont de nouveau rentrer en guerre et de nouveau se faire des ennemis au sein de la communauté. Finalement, ça se termine par un conseil communal exceptionnel. Et Gorian, le vieux pêcheur, explique pourquoi les enfants volent et pourquoi ce sont plutôt des victimes plutôt que de vrais délinquants ou criminels. Et finalement, le conseil communal lève les sanctions si les enfants se mettent au travail. Résultat, Nicolas est engagé par la société de pêche Paul va devenir apprenti chez le boulanger, Douro va travailler dans une ferme, Zora et Branko restent chez le pêcheur. Et les enfants se jurent cependant de rester des ouscoques toute leur vie et de se retrouver dès qu'ils peuvent chez Gorian. Faut savoir que cette intrigue est donc l'adaptation d'un livre pour enfants qui a été écrit par Kurt Held, d'Hiro de Zora on Iron Band, Zora Larousse et sa bande, qui a été lui aussi édité à l'école de loisirs en français sous le titre de Zora Larousse.
Et tout est bien qui finit bien, donc.
Tout est bien qui finit très bien.
C'est notre chauffeur qui change les roues crevées. J'y arriverai jamais toute seule. C'est rien, laissez-moi faire. Je vous dois bien ça. Si l'autre fois vous n'étiez pas intervenu pour me sauver de tous les collégiens, qui seraient en prison aujourd'hui. Ouais, je sais. Pourquoi tu n'essaies pas de développer tes connaissances de mécanicien plutôt que de perdre ton temps comme ça avec des voleurs? Oh non, écoutez, ce sont pas des voleurs. Ah, tu crois ça? Alors d'après toi, qu'est-ce que tu crois que c'est? Alors, tu y arrives?
Vous inquiétez pas, vous allez voir. Si je reste avec ces voleurs, comme vous les appelez, c'est qu'il y a qu'eux qui ont voulu de moi.
De toute façon, tu dois bien admettre que vous ne faites rien d'autre que de vous promener et de voler.
On n'est pas des voleurs.
Mais ça, il n'y a que vous à penser. Est-ce que c'est toi, le chef?
Non. Oh non, loin de là, c'est Zora qui nous donne des ordres.
Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une fille qui vous donne des ordres à tous? Et vous obéissez sans discuter?
Zora est une fille formidable.
Oh bon, d'accord, je te crois, ne te mets pas en colère.
Je me mets pas en colère?
Mais je ne comprends pas pourquoi vous gaspillez votre temps au lieu d'apprendre des choses utiles.
Oh ben, nous, on serait d'accord, au contraire.
Et ben alors?
Je vous l'ai déjà dit, personne ne veut nous aider. Et voilà, c'est terminé.
Bon, qu'est-ce que je te dois?
Rien du tout. L'autre fois, vous m'avez rendu service, aujourd'hui c'est à mon tour. Non, je veux rien. Je vous dis que je suis pas un mendiant, gardez votre argent.
Mais je ne veux pas te payer. C'est un cadeau pour toi. Je pensais l'offrir à mon petit frère.
C'est vrai?
Oui, prends-le.
C'est très marrant parce que tous les sites internet que j'ai visités parlent beaucoup plus du générique que de la série en tant que telle et reviennent sur ce fabuleux générique, le lit de mousse et blabla et blabla. C'est vraiment très marrant.
Les dents de loup, dents de lait qu'on va partager. C'est vrai qu'on en parle beaucoup plus, mais de la série, nada.
C'est notre mémoire d'enfant qui a oublié ça.
Cap à présent sur la Yougoslavie.
Effectivement, et ça aussi, notre mémoire d'enfant l'a oublié. On se souvient généralement de Zora Larousse et des histoires, etc. Mais moi, en tout cas, je me souvenais pas du tout que le feuilleton était rempli d'éléments traditionnels, voire folkloriques sur la Yougoslavie. Donc déjà, l'histoire se déroule dans une petite ville, Sanji, et la population est donc divisée comme une population d'antan, comme vous pouvez le voir aussi carrément dans les années 50 chez nous, mais probablement que ça a duré un peu plus longtemps là-bas. La population est divisée en riches et en pauvres. Du côté des riches, on a le maire, le docteur, etc. Du côté des pauvres, on a les gens qui sont sur le marché, on a les pêcheurs, etc. Et entre les deux, on a une classe montante, qui est une classe intermédiaire, comme par exemple le boulanger. Et on voit d'ailleurs que la femme du boulanger espère monter les échelons petit à petit et devient copine avec les gars du conseil communal. On comprend aussi que cette organisation traditionnelle est en voie de changement et que certaines professions sont en train de monter, comme par exemple la boulangère, je viens d'en parler, mais que d'autres vont se réorganiser. Et là, c'est par exemple les pêcheurs qui doivent se battre contre la société de pêche qui veut racheter leurs parcelles. Et on voit que c'est un combat perdu d'avance, puisque le vieux Gorian finit par signer.
Autre élément visuel important de cette série, ce sont aussi les costumes.
Et ça, je m'en souvenais pas du tout. Je me souvenais très très bien du cheval de Zora qu'elle nous dans son dos, mais je me souvenais pas que les acteurs et les personnages secondaires étaient vêtus d'habits traditionnels. Alors vous voyez les chemises brodées avec un col qu'on referme par un lien, ce genre de truc, les chapeaux aussi. Et en fait, seuls les nantis suivent une mode plus occidentale, on dirait un peu année folle. Le personnage de Zlata notamment, la fille du maire, est habillée très année folle avec des beaux chapeaux, etc. Mais les autres, ils sont vêtus vraiment d'habits traditionnels. On dirait presque qu'ils ont pris un vrai village pour faire les figurants d'ailleurs. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, en faisant des recherches sur internet, je me suis rendu compte que c'était aussi une des caractéristiques du cinéma yougoslave en général, d'avoir été très documentarisant et d'avoir beaucoup utilisé les conditions de vie des populations yougoslaves dans les films, généralement documentaires mais aussi de fiction. Et par exemple, Il y a un film de 1964 de Christos Kanata qui décrit le cas d'un mineur qui a perdu son bras et qui doit se battre pour toucher une pension dérisoire. Et il exprime son indignation, etc. Et les auteurs du site où j'ai trouvé ça disaient que finalement, dans tous les cinémas socialistes, puisque la Yougoslavie était sous régime dictatorial et communiste, c'est le seul cinéma qui a donné un peu des dénonciations d'injustice de la société, etc. Quelque chose qu'on retrouve dans Zora Larousse aussi.
La production yougoslave me semble donc très joyeuse.
Peut-être pas, non, tout à fait, mais en tout cas à sortir du lot. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en connaît rien du tout. On n'en voit jamais, je pense que c'est la seule série yougoslave que je connais. Finalement, on ne connaît pas du tout tout ce qui vient de l'Europe de l'Est, mais même pas aussi loin. Quand on réfléchit vraiment à ce qu'on regarde à la télé, c'est surtout américain, parfois anglais, français, parfois allemand, et encore allemand, on connaît Derek, mais on connaît pas grand-chose d'autre. Et pourtant, on se rend compte que quand on regarde, par exemple, sur le site de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, l'Allemagne est le premier producteur européen de séries télé, loin devant la France, puisque l'Angleterre est numéro 2, et on se dit que Derek, par exemple, est loin de représenter les 1689 heures de programme produites en 96. C'est toute une production qu'on ne connaît pas. On connaît Siska, on connaît Alerte Cobra, mais à mon avis, on ne connaît pas une grosse partie de ce qui se tourne en Allemagne.
Ce qui intéresse surtout les programmateurs, ce sont les crimis.
De mauvaise qualité, soit. Et si on ne connaît pas ce qui se passe en Allemagne, alors je pense qu'on connaît encore moins ce qui se passe en ex-Yougoslavie. Il me semble que le cas de Zora Larousse est carrément exemplaire.
Peut-être justement parce que la série a été coproduite par la France.
Oui, ils disent en générique sous les bons conseils de France 2, qui était Antenne 2 d'ailleurs à l'époque.
Oui, c'est ce que je me dis à chaque fois que je viens ici, et c'est presque tous les jours. Oh. Qu'est-ce qu'on voit au loin, là-bas? Ah oui, on voit toutes les îles d'un coup. Voilà Kirk, là c'est Rab, et là-bas, Pag. Tu sais, Zora, on dit partout que c'est très dangereux d'aller dans le château fort, parce qu'il est plein d'oubliettes, et on dit même qu'il est hanté. Oh, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont très peur. Ça, oui. En sachant tout ça, comment vous avez osé venir y habiter?
C'est parce
quand même.
Qu'un jour, je me suis perdue et j'ai trouvé le passage secret. Et j'ai tout de suite pensé que c'était la cachette idéale.
Et qu'est-ce que ça veut dire, son nom, Néage?
Néage, ça veut dire ne crains rien. Nous, on a décidé de l'appeler le château des Ouskok. Parce qu'on veut tous devenir des héros aussi courageux que les Ouskok.
Qui c'était, les Ouskok?
Les Ouskok, c'étaient les plus courageux des chevaliers, des capitaines et des navigateurs de toute l'Adriatique. Si tu veux en voir, va te promener à l'église Saint-François. Ils sont enterrés sous des grosses pierres tombales et il y a écrit dessus la liste des principales batailles qu'ils ont livrées et gagnées.
C'est là que j'ai été baptisée.
Oh, alors tu es impardonnable de ne rien savoir sur eux. Ils ont battu les Vénitiens aussi bien que les Turcs. Et ils sont même allés se battre contre l'Empire allemand et contre les Hongrois. Il y avait une femme parmi eux et elle est partie se battre avec les hommes. On dit qu'elle a été aussi brave qu'eux. Une certaine légende prétend même qu'elle a été plus brave encore que les hommes.
Où vous étiez? Je vous cherche partout.
Je faisais simplement visiter le fort à Brancou.
Ah oui, parce que lui, il a le droit de se tourner les pouces pendant qu'en bas, tout le monde travaille.
Oh, ça va. Il fallait bien que quelqu'un lui montre le fort. Bon, allez, tout ça m'a creusé l'appétit.
Zora Larousse, Lydia Kovacevic, a 15 ans. Quand elle tourne Zora Larousse, elle doit se teindre les cheveux d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas rousse du tout, la petite. Pour la petite histoire, elle a incarné pendant un an avant de retourner à l'école et elle est aujourd'hui professeure de lettres. Pourquoi je vous parle d'elle? Tout simplement parce que 15 ans me semble un âge assez emblématique, puisque les Ouskok sont des vagabonds, mais sont aussi avant tout des adolescents. Et cette série, donc, est une série pour adolescents. Alors on le sait, les adolescents ne fonctionnent qu'en groupe, et les séries l'ont en général bien compris. Souvenez-vous, par exemple, de Angela 15 ans, qui est une série où il y a une adolescente, mais on ne sait pas la montrer sans ses copains. D'autres jouent beaucoup plus que ça encore sur cette idée de groupe d'adolescents, sauvés par le gong ou soit prof et toi. On les voit que très très rarement avec leurs parents. Le seul adulte du groupe, ça doit être le prof, et encore. Il y en a d'autres aussi qui sont moins hard ou moins extrêmes, je vais dire, comme Beverly Hills ou Heart Lake Ravif. Mais le plus important reste le groupe des ados, même si on voit leurs parents ou leurs voisins, etc.
Il y en a même qui sont plus bavardes aussi.
Oui, tu penses à Dawson,
oui,
toi, comme tu es là.
Alors,
quand le groupe fonctionne en vase clos et selon ses propres lois, c'est encore mieux. C'est beaucoup plus porteur et on le retrouve, par exemple, dans le Club des Cinq, où les jeunes mènent l'enquête en marge des adultes, ou dans certaines productions pour enfants où la science-fiction permet d'isoler des enfants selon une raison ou une autre. Ils sont transportés dans un monde parallèle, des choses comme ça, et où ils doivent vivre entre eux et sans adultes. Et durant notre enfance à nous, donc les années 80, les séries s'étaient faites plus historiques. Souvenez-vous, par exemple, de Rémi sans famille ou de Belle et Sébastien, où on a beaucoup de vagabonds. Et Zora Larousse est finalement tout à fait dans ce contexte-là. Liberté, indépendance, justice, ce sont aussi des idéaux adolescents, même s'ils sont les idéaux des Ouscoq. Ajoutez à ça l'innocence et l'espièglerie et vous obtenez Zora Larousse. Dans Zora, les adolescents sont extrêmes et ne se rendent pas compte des conséquences de leurs actes. C'est pour ça qu'ils ouvrent les vannes du meunier, ne se rendent pas compte que les 3000 dinars en poisson vont s'en aller. Ils ne pensent non plus jamais à l'avenir ou à ce qu'ils vont devenir. Et quand le conseil communal leur propose de travailler, leur première réponse est non. Et puis après, il faut qu'un adulte leur montre que c'est peut-être une meilleure solution que de rester des vagabonds toute leur vie. Et là, alors, ils entendent raison.
Côté moralisateur, quelque part.
Un petit peu, mais sans être non plus un moralisme à deux balles facile dans les dialogues, par exemple. Zora Larousse, finalement, c'est donc une histoire d'enfants qui sont confrontés au monde des adultes et qui sont complètement déstabilisés et qui, petit à petit, vont devoir en comprendre les règles et trouver leur place dans cette société. Zora Larousse est donc un feuilleton qui parle d'adolescents, mais c'est aussi un feuilleton qui est parfois un peu basique, un peu facile, et donc à destination d'un public assez jeune. L'humour, par exemple, il est un peu simple, on va dire. Par exemple, le personnage de Begovic, qui est le policier, le gendarme, me fait très très fort penser au sergent Garcia de Zorro. Et vous imaginez tout à fait le type de gag dont il va être porteur. On a aussi les deux policiers qui font penser à Sancho et Pedro des Mystérieuses Cités d'Or ou au Dupont et Dupont, ce genre de choses.
On est clairement toujours dans le premier degré.
On est dans le premier degré, très clair. On est aussi dans le premier degré au niveau des personnages, puisque les personnages sont simples et très manichéens. On a les bons et les méchants. Du côté des bons, ce sont évidemment les vagabonds et les pauvres. Et les méchants, ce sont les riches, à quelques exceptions près. Par exemple, Zlata, qui est l'amie de Branco, même si elle est la fille du maire. Et puis à côté de ça, on a des développements d'intrigue qui sont aussi parfois très enfantins, très naïfs. Je me souviens par exemple de la manière dont les enfants viennent à bout du patron de Stéphane. Pour obtenir raison, il secoue en fait l'échelle sur laquelle il était et bon, il a peur et donc il leur donne raison. Ou alors les courses-poursuites qui se terminent en général grâce à un chien très gentil et qui devient leur ami au lieu de les mordre. Donc c'est des choses qui sonnent un peu faux comme ça. Et puis surtout, le moment le plus creux, je pense, de cette série, c'est l'épreuve du poignard. Je sais pas si vous vous souvenez, ils doivent passer le poignard entre les doigts de plus en plus vite et je pense que la vitesse où ils vont, n'importe qui aurait pu rentrer dans cette bande de vagabonds. Donc c'est des choses parfois un peu faciles, ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui, très habitués à la rapidité des mangas par exemple, vont probablement trouver ça très ringard. Et si vous regardez de nouveau ce DVD, vous allez pouvoir vous dire « mais enfin c'est très mauvais ». Il faut évidemment remettre tout ça en contexte, fin des années 70. Et il faut aussi repenser au fait que c'est yougoslave et qu'ils n'avaient probablement pas non plus... toutes les intrigues que l'on a, nous.
D'autant qu'on peut dire aussi que le doublage n'est pas non plus extraordinaire sur cette série.
Non, mais je pense que le doublage, même à l'époque en général, n'était pas extraordinaire sur aucune série. Alors, c'est une série qui parle aux adolescents et de manière pédagogique, à tel point, figurez-vous, que le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes de Suisse décerne chaque année un prix Zora Larousse, qui récompense des projets culturels dans le domaine des médias pour l'enfance et la jeunesse. Et les productions couronnées sont en général celles qui remettent en question la répartition traditionnelle. Les femmes au foyer, les hommes au travail. Et dans ce cas, on voit que Zora, qui est une fille qui dirige des garçons, Zora Larousse qui est aussi en feuilleton, qui s'interroge plus sur les causes de la délinquance qu'autre chose. On ne sait retirer la délinquance du monde que si on touche aux causes. Eh bien, on se rend compte que finalement, c'est un chouette titre pour un prix qui couronne ce genre de choses intelligentes. Et c'est gai de voir qu'une série pareille a eu un retentissement dans un prix pareil, je trouve.
Ce sera la conclusion de ce dossier aujourd'hui. Sarah, merci beaucoup.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.